La semaine vous a paru longue, très longue, presque trop longue. Tout ça est maintenant chose du passé. Au cours des prochaines heures, installez-vous confortablement dans votre fauteuil préféré et permettez-vous du rêve ou de préparer votre prochaine escapade. Laissez Guy Martin vous amener sous le signe de Simplement plein air. Des chroniques, des interviews passionnantes par des gens passionnés qui vous amèneront loin du quotidien. Voici votre hôte, Guy Martin.
Ah, que j'aime la musique du début de notre émission Simplement plein air. Et bonjour tout le monde, mon nom est Guy Martin, votre hôte. Bienvenue chez Simplement plein air, à votre émission, souhaitons-le, plein air hebdomadaire favorite. Cette semaine, oulala, tout notre petit monde nous attend en coulisses. Mais avant de continuer d'aller plus loin, j'aimerais juste vous mentionner que pendant le temps des fêtes, Simplement plein air ne fait pas relâche. Par contre, entre Noël et le jour de l'an, on va avoir une émission un petit peu écourtée, une émission d'une heure, mais une émission spéciale où le rire sera de mise car nos intervenants de Simplement plein air vont être réunis tous ensemble, et oui, ça va être une cacophonie. Non, c'est quand même bien, on l'a fait l'an dernier, une émission spéciale où on va parler de ce qui s'en vient et de ce qui s'est passé pendant l'année qu'on a passée ensemble. Et voilà, donc vous allez voir, c'est vraiment une belle émission. Sur ce aussi, je vous dirais que si vous manquez des émissions, parce qu'on reçoit encore énormément de courriels qui nous demandent si on manque l'émission, comment on fait, où on va la chercher, vous allez sur le www.simplementplein-air-simplyoutdoors.ca et vous allez sur l'onglet balado-diffusion. Vous allez voir l'onglet balado-diffusion, vous allez pouvoir choisir les émissions que vous voulez entendre. J'ai des gens qui me disent même qu'ils les écoutent en rafale, dans le retour, c'est une balado-diffusion. Aussi, on est sur iTunes et Google+, donc il y a différentes façons d'écouter Simplement plein air, que ce soit sur votre portable, sur votre ordinateur à la maison, votre tablette, il y a moyen de téléverser l'émission et l'écouter à votre guise, où vous voudrez, même en auto, en autobus même. J'ai quelqu'un qui me disait justement qu'ils font le transit, ils font beaucoup d'autobus et de métro à Montréal, et il disait qu'il écoutait l'émission, qu'il adorait écouter l'émission pendant ces transits-là. Donc, écoutez, c'est là pour vous. Vous l'écoutez à votre guise. Naturellement, on a aussi, et je le répète, le site Simplement plein air. Simplement plein air, vous pouvez vous inscrire au site. En inscrivant, vous allez sur Balado Diffusion, vous allez sous l'onglet Balado Diffusion, et vous allez voir à votre droite, vous avez inscription au site, vous n'entrez que votre courriel. Aussi, on a eu des questions. Non, on ne donne pas, on ne divulgue pas aucun courriel à qui que ce soit. Donc, on est sur WordPress et c'est très bien protégé. On va toucher à du bois, là. On ne s'est jamais fait hacker notre site depuis que le site existe. Donc, non, vos courriels demeurent personnels à vous et vous pouvez vous désabonner quand vous voudrez. Mais qu'est-ce que ça donne? C'est qu'à chaque fois qu'on va y déposer une émission ou on va y déposer une vidéo de l'inédit que vous ne voyez même pas sur notre page Facebook. On la met là et vous allez recevoir finalement un courriel vous disant qu'on a été mettre quelque chose là-dessus. Aussi, je vous parlais de YouTube. Vous pouvez vous abonner à notre canal YouTube. Vous faites juste sur YouTube Simplement plein air et c'est nous qui vont sortir Simplement plein air. On y dépose aussi beaucoup de vidéos. En parlant vidéo, bien, naturellement, la semaine dernière, je tiens à remercier les amis qui ont écouté la vidéo de Mme Martine Chevigny, briser tous les records de Simplement plein air. On a impacté, et ça, je parle organiquement. Pour les utilisateurs de Facebook, vous savez, un peu organique veut dire que c'est une vidéo qu'on a été déposée là, et qu'on n'a fait aucune intervention monétaire pour la mettre de l'avant. OK. Donc, cette vidéo a été vue a impacté plus de 18 000 personnes. Donc, c'est 18 000 personnes qui ont vu le logo simplement plein air leur passer devant l'écran. Et aussi, on a eu là-dessus, si je me trompe pas, là, à peu près 4 000 vues de cette vidéo-là. On nous dit que c'est, ben, en tout cas pour nous, simplement plein air, c'est un record. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment le fun. On est texté, on est tout énervé de ça. L'émission d'aujourd'hui, naturellement, vous allez voir, on débute avec Madame Nancy Proulx-Martin et ses recettes. Et vous allez voir, par la suite, tout s'enfile avec de la très bonne musique. Donc, sur ce, moi, je vous dis, hey, asseyez-vous confortablement à la Simplement plein air et bonne émission.
De l'information, des nouveautés, des trucs. Simplement plein air, c'est tout ça et beaucoup plus.
Bonjour, chers auditeurs. Mon nom est Nancy Proulx-Martin pour la chronique Simplement bouffe. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Cette semaine, pour rester dans la thématique des fêtes, des réceptions, j'ai une délicieuse recette de mini garzone. Cette recette est idéale pour les soirées entre amis, pour 5 à 7 ou comme apéro. Dans cette recette, j'ai fait de la sauce à part comme pour faire une trempette. La préparation dure 40 minutes, cuisson 20 minutes, ce qui donne assez de gazon pour une dizaine de personnes et plus. Préparez vos papiers et crayons, je vous donne les ingrédients. Pour la gazone, vous avez besoin de 4 cuillères à soupe d'oignons rouges hachés, 1 cuillère à soupe d'huile d'olive, 1 livre de gibier haché ou vous pouvez utiliser toutes sortes de viandes hachées que vous avez dans votre congélateur ou à votre disposition, sel et poivre au goût, 1 œuf, 1 cuillère à soupe de moutarde de Dijon et 3 cuillères à thé de persil frais haché et 2 gousses d'ail hachées finement. 3 champignons coupés fins, de la pâte à pizza et 225 g de beurre fondu. Maintenant, je vous donne les ingrédients pour la sauce à sa crémeuse. 6 tomates rouges bien mûres, 1 cuillère à soupe d'huile, 1 gros poivron vert coupé en dés sans peau, 1 gros poivron rouge coupé en dés sans peau, 1 petit oignon coupé en dés, 1 gousse d'ail pelé et haché finement, 4 cuillères à soupe de coriandre fraîche non compressée, 1 cuillère à thé d'origan séché et sel et poivre au goût. Pour la préparation des gazons, préchauffez le four à 350 degrés Fahrenheit. Dans une poêle antiadhésive, versez l'huile et ajoutez l'oignon. Faire revenir en ajoutant la viande hachée et la cuire en mélangeant de 10 à 15 minutes. Ensuite, laissez refroidir une dizaine de minutes. Dans un bol à mélanger, mettre la viande cuite, ajouter le sel, le poivre au goût, l'œuf, la moutarde, le persil, l'ail et le champignon et mélanger à la main de façon à obtenir un mélange qui se tient. Pour préparer les gazones, aplatir ou aplanir la pâte à pizza et à l'aide d'un emporte-pièce, façonner des cercles. Puis, la badigeonner de beurre fondu et répéter cette opération jusqu'à l'obtention de rondelles voulues. Déposez environ 1 cuillère à soupe de viande sur un des côtés de la pâte, puis rabattre les bords sur la viande pour en faire des demi-lunes. Et ensuite, déposez-les sur une plaque de cuisson. Mettre au four pendant 20 minutes ou jusqu'à ce que la pâte devienne dorée sur le dessus. Servir immédiatement accompagné d'une sauce et d'une salade verte. Pour la préparation de la sauce, placez les tomates dans un bol d'eau chaude avec une incision sur le dessus jusqu'à ce que la peau se soulève un peu. Enlevez la peau et mettre les tomates de côté. Dans une poêle à frire à feu mi-vif, versez l'huile et faites griller l'oignon jusqu'à ce qu'il soit tendre. Ajoutez l'ail et faire cuire environ 2 minutes de manière à le faire brunir avec l'oignon. Ajoutez les tomates, les poivrons sans peau, la coriandre et l'origan. Laisser cuire environ 5 minutes et les réduire en purée au robot mélangeur jusqu'à ce que le mélange ait la consistance désirée, salé et poivré au goût. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette recette et que vous allez pouvoir vous en servir lors de vos petits cocktails. Si vous n'avez pas eu le temps de prendre la recette en note, n'oubliez pas qu'elle sera disponible sur le site de Simplement Plein Air. Alors, à l'adresse simplementpleinair-simplyoutdoors.ca, allez sur les émissions. Ça va être l'émission numéro 20. Ou vous pouvez aussi l'écouter sur la balado-diffusion également. Si vous avez des commentaires, des suggestions de recettes ou des questions concernant cette recette, vous pouvez me contacter par courriel à bouffe@simplementpleinair-simplyoutdoors.ca ou en allant sur la page Facebook de Simplement Plein Air en cliquant sur « Message » et en indiquant la recette que vous avez écoutée, ainsi que vos commentaires et suggestions, et il me fera plaisir d'y répondre et de prendre vos commentaires en considération. Vous désirez participer à l'émission? Il suffit de me faire parvenir un courriel à bouffe, comme je l'ai mentionné, ou par notre page Facebook. Et par la suite, nous allons ensemble partager votre recette en ondes et elle se retrouvera dans le livre de recettes volume 2 de Simplement Bouffe. Vous n'avez pas encore votre premier exemplaire, il suffit d'en faire la demande, soit par courriel ou via la page Facebook de Simplement Plein Air, en indiquant que vous désirez un livre de recettes, combien, et par la suite, nous rentrerons en contact avec vous pour la livraison. Voilà, c'est tout pour cette semaine. J'espère que vous avez aimé ma chronique. Alors, je vous souhaite une bonne semaine et à la prochaine!
De retour à Simplement Plein Air avec Guy Martin.
Et nous voici de retour en studio, cette fois avec Martine Chavigny. Salut Martine!
Salut!
Et taxidermie, je vais dire, la vidéo Martine qu'on a mis la semaine dernière fait fureur.
Oui.
On est à ce moment-là où on se parle, on est pratiquement à 18 000 personnes d'atteinte et je ne me trompe pas, pas loin du 3 000 vues. Donc, pour Simplement Plein Air, tu es en train de briser un record, ma chère.
Ben, c'est excellent.
Oui, c'est le fun.
On était dans le bon timing de la chasse aux chevreuils.
Oui, en plus. Donc, mais là, cette semaine, on a un sujet qui est fort intéressant. Là, je suis sûr qu'il va y avoir des oreilles qui vont se dresser. Parce que moi, quand tu m'as annoncé ça et tu m'as envoyé de la vidéo, j'ai ma première réaction. Je me dis, hein, qui a tué ça? On va parler du stone sheep.
Oui.
Oui, un mouflon, là, pour les gens là, qui connaissent la vraie traduction française, ben faites-nous-la parvenir parce que à toutes les fois qu'on essaie de traduire Stone Sheep, on tombe tout le temps avec un mouton de pierre, là, mais on sait que c'est pas un mouton de pierre, là.
Oui, puis on disait mouflon d'Amérique, puis ça sort
ouais,
une
là,
autre sorte de
c'est ça, mouflon
celle que je suis en train de faire, en tout cas.
C'est ça, ça sort une autre sorte. Fait que, mais là, ça c'est chassé dans quel coin encore, Martine?
Ben, je crois que c'est dans les Rocheuses. J'y ai pas demandé exactement où ce qui avait été chassé ça, mais il me semble bien que c'est dans les Rocheuses.
Oui, le stone sheep qui est quand même, c'est pas des chasses faciles. Hein? Tout mouflon, là, même le dark sheep est encore un peu plus difficile parce que il est encore plus élevé. Là. Mais tout mouflon, toute chasse au mouflon, admettons, là, c'est qu'on le sait que le mouflon se tient en montagne. Donc, ouais. C'est des chasses assez difficiles. Mais là, voilà que toi, là, c'est ça, tu es en train d'en naturaliser un. Là.
Oui, c'est ça. Lui a été chassé à l'arc. Et que c'est quand même assez
un exploit,
parce que c'est des montagnes et c'est pas facile. Puis je pense que quand ils ont fait cette chasse-là, il a vraiment pas fait beau. Ils ont dormi des montagnes 2-3 soirs, puis c'était le blizzard. Là. Ils ont été pris dans leur petite tente pendant 2-3 jours. Là.
Ah
fait
oui.
Que ça n'a pas été une chasse facile, mais il a quand même réussi. Fait que c'est quand même une bonne chasse.
C'est une belle chasse. Puis pour les gens là, qui ont jamais vu ces type de chasse-là, moi, je vous conseille d'aller voir, là, on voit la chasse comme telle, aller sur YouTube et juste aller aller taper le chasse aux mouflons d'Amérique ou chasse aux mouflons ou Dall Sheep Hunt ou Stone Sheep Hunt, et puis vous allez voir là, c'est en montagne, en terrain d'un rocheuse, et puis c'est des chasses qu'il faut être en forme.
La plupart c'est fait à carabine là, parce que c'est pas facile là, mais c'est ça, lui il a réussi à l'arc.
À l'arc, oui, il y en a, j'ai vu, je n'ai vu une couple, mais comme tu le dis, c'est excessivement rare parce que c'est des animaux quand même qui sont très difficile d'approche parce que leur vue est perçante. Là. Ils vont le voir ça, à 2 km.
Ils voient bien, puis en plus, ils sont jamais tout seuls. C'est rare qu'ils sont tout seuls.
C'est ça.
Fait que c'est sûr que dans la gang, il y en a un qui va devoir bouger quelque part. Là, fait que...
Ouais, puis là, ça se sauve. Boum! Fait que imaginez que vous avez monté à 3-4 000 pieds d'altitude et puis cette bébête-là décolle. Oh my God! Le cœur veut vous arrêter, mais là, vous allez voir quelque chose de beau. Pour les gens qui nous écoutent à la radio, naturellement, quand on dit, ou qui nous écoutent sur la balado-diffusion, vous allez pouvoir voir là, bientôt sur le site simplementpleinair-simplyoutdoors.ca. Vous allez voir la vidéo du montage que Martine est en train de faire. Parce que Martine me fait parvenir toutes les vidéos qu'on va monter. Vous allez voir de A à Z. Moi, quand j'ai vu ça, j'étais comme « wow ». Quand j'ai vu aussi que, tu sais, le moule, t'es en train là, de le tailler. Là.
Ouais, de l'assembler. Parce que moi, il est arrivé en 7 morceaux.
C'est ça.
Les deux pattes d'en avant sont séparées. J'ai deux moitiés de corps. Puis les deux pattes d'en avant sont séparées. Puis c'est la tête est séparée.
Mais je t'ai pas vu un peu avec une petite scie, là, à un moment donné, faire un petit peu de découpage. Ça se peut-tu?
Oui, il faut que je le rapetisse.
Oui, hein? C'est ça.
Parce que le moule est trop gros pour la bête.
C'est ça.
Fait qu'il faut tout que je retravaille le moule au complet.
Oh là! Oui, puis ça, on le voit dans la vidéo. Comment tu dis ça?
Mais il se fait bien.
Il se fait bien, oui.
Comparativement, mettons, au bœuf musqué que j'avais fait. Là,
oui.
Ils se travaillent pas mal mieux parce qu'en partant, ils ont bien taillé la peau.
Ah, OK.
C'est pour ça que quand que je dis que ça... Tu sais, quand que la base est bien faite, là...
C'est ça.
Quand il est bien taillé, là, il est vraiment coupé sur le dos. Fait que je rentre les quatre pattes comme un gant puis je vois rien qu'à attacher le dos. Là, ça a été bien fait.
Okay.
Puis le tannage, il est beau aussi. Fait que c'est quand tout est bien fait, ça travaille vraiment bien.
Donc, à partir de là, toi, pour la finition, là, tu es obligé de faire de la grande couture là, sur le dos?
Oui, je fais la couture sur le dos, ça n'apparaîtra pas pantoute.
Wow! OK. Mais est-ce que tu le fais par en
dedans? C'est à poêle. Hein? Tout ce qui est à poêle, faire une réparation sur le dos, ça ne se voit pas.
Oui, c'est un fait. Hein? Mais ta couture, est-ce que tu as fait par en dedans ou par en dehors?
Par en dehors.
Par en dehors, hein, parce que là, une fois que tu l'as mis sur le moule, t'as comme pas le choix, t'es obligé. Oh là là, OK, OK.
Ouais, et les chevreuils, quand que le chevreuil est ouvert à grandeur dans le dos, là, je le couds avant de le rentrer dans le moule.
Oui,
j'en couds une bonne partie.
Par l'intérieur.
Puis j'enlève par l'intérieur, fait comme ça, là, ça fait vraiment une belle couture parfaite.
C'est
mais,
ça.
Mais vous allez voir, lui, à poil long, là, ça se voit pas, là, la couture.
Oui, c'est ça. Puis en plus, hein, si c'est une chèvre, un mouflon, là, sur le dos, ils ont le poil toujours plus long aussi. Hein?
Ah oui, ça a un gros poil dense.
Oui, c'est ça. Fait que là, toi, tu vas le reconnaître. C'est vraiment un art. Hein? C'est... faut le faire parce que ça a l'air... Quand on le voit, le produit final, ça a l'air de rien, mais le faire, là on a la chance de t'avoir et tu as la chance de nous montrer comment ça se fait. Manquez pas ça, vous allez voir la vidéo là, devrait paraître là, d'ici une semaine sur... on va vous informer, ça c'est sûr et certain, aussitôt qu'apparaît. Vous allez la voir, on va avoir de l'inédit, là, on va le mettre sur le site simplement en plein air. Donc, c'est vraiment, vraiment le fun, Martine. Et puis là, pour toi, là, naturellement, là, ça doit commencer à se calmer un petit peu ou si tu reçois encore plein de choses?
Non, c'est les chevreuils qui rentrent. Mm-hmm. Ils sont pas mal rentrés. J'en attends un autre en fin de semaine. Là, après ça, ben là, je vais être capable plus de sortir les projets qui me restaient à sortir là,
ouais, c'est
avant
ça.
Noël, mettons.
Et puis en plus, dès là, il y a peut-être du loup que tu vas continuer à avoir aussi. Hein? Le
oui,
loup, le
sûrement,
coyote, le renard.
Ben là, c'est ça, j'en ai des loups de j'ai un trappeur là, qui est supposé de m'en ramasser. Parce que j'ai des demandes. J'ai des gens qui aimeraient ça avoir un de monter. Fait que je vais en faire d'avance.
Ah, c'est
facile d'en faire un ou deux d'avance. Oui,
ouais, puis c'est tellement beau. Hein, le dernier là, qu'on a vu là, que tu as fait, là, wow! C'est
ouais,
vraiment
c'est
quelque
bête.
Chose. Hein? Oui, oui, c'est une belle bête. C'est le fun ouais. Parce qu'on. Tu sais, les voir, là, c'est différent. Là. Je veux dire, c'est sûr que les voir vivants aussi, ça l'est, là. Mais la majorité des gens qui voient les loups vivants les voient dans des vidéos. Tandis
ouais.
que là, quand tu les vois devant toi, là, puis tu vois la grosseur que ça a, là, tu sais, les gens pensent, oh, c'est pas un chien policier.
Non, c'est assez imposant. Puis,
ouais.
tu sais, lui que j'avais fait en plus, c'est même pas un plus gros, là, parce que j'ai rapetissé le moule.
Imagine.
C'est parce qu'il y a plus gros que ça, là. S'il était moulé, je sais qu'il y a des moules encore plus gros que celui-là, là. Fait que c'est pas une petite bête, quand même. Là.
Ouais, c'est pas tout petit. Mais si on veut plus d'informations, Martine, pour la taxidermie, comment se préparer finalement les peaux et tout ça pour te les apporter, ou juste pour avoir de l'information chasse, l'information générale, et les gens font de quelle façon?
Bien, ils peuvent me rejoindre sur Messenger, puis sur mon cellulaire dans 819-442-2453.
Parfait. Bien, écoute, Martine, tu passes une bonne semaine. Puis nous, bien, naturellement, on rappelle aux gens, vous allez voir la vidéo sur www.simplementplanet-simplyoutdoors.ca. On va aussi la montrer sur Facebook et sur YouTube. Donc, suivez-nous sur les médias sociaux. Donc, Martine, merci et tu passes une excellente semaine.
Bien, merci et bonne semaine.
Simplement plein air. Pour les amants de plein air.
Qu'est-ce qu'un gars de Mont-Carmel fait dans la ville de Montréal? À moitié des cars passer tout l'après-midi. Mais c'est juste que je m'en souviens qu'il y avait quelque chose de même quand je restais par chez nous. Qu'est-ce qu'un gars de Mont-Carmel fait dans la ville de Montréal? À moitié des courses passer tout l'après-midi. S'ennuie assez pour ébrailler, trop stock pour s'en aller. Qu'est-ce qu'un gars fait pas pour gagner sa vie? Je te dis, mon voisin, c'est du drôle de monde. J'aimerais mieux pas t'en parler, tu pourrais mourir. Ils s'inquiètent, ils rient pas trop. Ma voisine, elle est libérée. Elle a quelque chose contre les hommes, mais mon autre voisin, il aime les hommes petites bites trop. J'avais vu la façon d'écrire un mot à ma mère. Mais les derniers trois mois, j'ai pu y écrire toute ma vie. Elle comprend pas mon écriture. Ça fait rien si bien mieux de même. La worrierait si elle savait comment je m'ennuie. Qu'est-ce qu'un gars de Mont-Carmel fait dans la ville de Montréal?
prenez une grande aspiration. Vous sentez l'air frais? C'est l'effet Simplement plein air. Du plein air jusque dans votre salon.
Bonjour tout le monde et bienvenue à votre entrevue Simplement plein air. Vous savez, lorsqu'on dit aller pratiquer son sport de plein air, aller pratiquer une randonnée, une marche, oui, il n'y a pas de problème, ça se fait. Mais encore faut-il qu'il faut être vêtu d'une façon décente. Et pourquoi pas joindre l'utile à l'agréable lorsqu'on va s'équiper au bon endroit? J'ai la chance d'avoir au bout du fil Mme Jeanne Grenier des Fourrures Grenier. Bon matin, Mme Grenier.
Bon matin.
Madame Grenier, quand on parle de fourrure grenier, là, on ne parle pas uniquement que des mitaines et on ne parle pas uniquement que de bottes. C'est un gros département. En fait, fourrure grenier, ça existe depuis combien d'années? J'ai l'impression que c'est là depuis toujours.
Pas depuis toujours, mais quand même depuis plusieurs années. Ça a débuté par mes parents qui ont commencé à faire le commerce de la fourrure brute, donc acheter la fourrure des trappeurs. Mm-hmm. Puis ensuite, ça, ils revendaient ça en gros à des manufacturiers. Ça, c'est dans les débuts des années 1970.
OK, donc 70, ça commençait, là.
Oui, l'entreprise commençait, mais on ne manufacturait pas à cette époque-là.
OK.
Ensuite de ça, mes parents ont incorporé l'entreprise en 1978. Puis, on a commencé à fabriquer, ben moi, là, il y a 45 ans, on avait à peu près, on a acheté notre première machine à coudre, puis on a commencé à manufacturer des petites choses. Je me souviens, moi, j'étais pas vieille à cette époque-là, là, 7-8 ans, je commençais à coudre des poupées de fourrure.
Donc, vous avez pris part à l'accroissement de la compagnie. Là, vous avez vu étape par étape, là, des tout débuts jusqu'à aujourd'hui.
Oui, le côté manufacturier, ben même quand mes parents ont commencé à acheter la fourrure des trappeurs, mm-hmm. Je me souviens de ça, là, à cette époque-là. Ça veut dire qu'on avait commencé, c'est drôle, parce que quand on a commencé à fabriquer des produits de fourrure, on avait une entreprise au Lac-Saint-Jean qui faisait à peu près la même chose que nous, qui achetait la fourrure des trappeurs, puis eux fabriquaient des chapeaux, des mitaines et des pantoufles de fourrure.
Okay.
On avait été les visiter, puis ils nous avaient donné leur patron, ils avaient fait dessiner leur patron sur des feuilles de papier qu'ils nous avaient laissées. Donc, à ce moment-là, on a commencé à fabriquer des choses avec le patron de ces personnes-là qui habitaient au Lac-Saint-Jean. Puis, eux autres sont encore en affaires. Ils fabriquent encore des articles de fourrure. Donc, aujourd'hui, on est devenus des compétiteurs. Mais on a quand même une saine compétition.
Autrement dit, là, lorsqu'on fait affaire avec les produits qui sont faits par Fourrure Grenier, là, on est certain de ne pas se tromper. Là. Mais on a parlé hors des ondes qu'il semblait y avoir comme trois départements là, à Fourrure Grenier. Là.
Oui, Louis, avec le temps, on est devenu trois départements. On achète encore la fourrure des trappeurs. C'est mon frère Claude qui est directeur de cette division-là. Ensuite de ça, on a une boutique de détail qu'on vend nos produits, mais on vend aussi beaucoup d'autres marques de produits. Mais c'est toujours chaussures, manteaux ou accessoires pour l'extérieur. Puis ensuite de ça, bien entendu, on a notre manufacture d'articles de fourrure.
Est-ce que c'est bien compliqué? Une question que je me pose comme ça, et je suis probablement pas la seule personne à se poser la question. Est-ce que c'est compliqué de travailler la fourrure? On a l'impression, lorsqu'on voit ça à la télévision, que c'est très facile, mais on parle de cuir, on parle de fourrure. Là, ça doit pas toujours être évident. C'est la même affaire pour les manteaux ou les mitaines, là.
Non, c'est pas évident parce que on s'entend que beaucoup de gens qui travaillent dans le domaine manufacturier ont des pièces toujours identiques. Donc, ils ont, dans le tissu, ça peut mesurer 60 cm de large ou 150. C'est toujours uniforme, tandis que nous, dans la fourrure, on doit toujours faire face au fait que la peau a des défauts, même dans le cuir. La peau de cuir a des défauts. Il y a des parties qui sont moins belles. Dans une peau de fourrure, il y a des flancs. Il y a encore des défauts qu'il faut contourner. Donc, on peut pas arriver puis dire, dans une peau, on fait, exemple, deux chapeaux. Des fois, on en fait deux. Des fois, on en fait deux et demi. Des fois, on en fait un et trois quarts. Donc, il faut toujours contourner. Puis, il y a aussi toujours l'aspect de couleur de fourrure. Donc, il faut garder la couleur parce qu'une même peau, exemple, une peau de chat sauvage, elle peut être plus jaune. Genre, on peut sortir cinq peaux de chat sauvage, il n'y aura pas une pareille. Donc, il faut aussi s'occuper de la couleur de la fourrure, puis ensuite de ça, de la densité du poil. Il y en a qui ont un poil plus fourni, plus de duvet dans le fond, puis il y en a qui ont moins de duvet, plus de poil long. Donc, c'est pour pouvoir travailler la fourrure, là, ça prend un œil de connaisseur. Juste pour vous dire, là, ma mère qui a 83 ans, taille encore de la fourrure. Donc, c'est elle la spécialiste encore, là. Elle fait pas tout, mais une grosse partie de fourrure sauvage, les produits en coyote, en chat sauvage, en castor, c'est tout elle qui taille ça encore. Elle a 83 ans, puis on n'a pas encore trouvé personne qui a ses connaissances, puis c'est dur à former. Là.
Et j'ai l'impression que lorsqu'elle parle, on dit « Attention, elle a parlé ».
Ah, c'est sûr. c'est vraiment, ben, tu sais, ça fait tellement des années qu'elle travaille
là-dedans. Ben, c'est ça. Là, on se rappelle que c'est depuis les années 70, en 78. Oui. Mais, Mme Grenier, vous m'avez parlé aussi des autres départements. Là, on a parlé un petit peu du département de la fourrure, mais vous avez aussi d'autres départements, là, parce que ça vaut la peine de le souligner, parce que, comme on dit, il ne faut pas avoir peur de le dire, les produits, les fourrures Grenier, là, c'est trois départements, mais t'es équipé pour veiller tard avec ça, là.
Oui, nous, on est équipés l'hiver de la tête aux pieds. Donc, les bottes, on a des pantalons d'extérieur, on a des manteaux chauds. On essaie de tenir le plus possible des produits québécois, comme, tu sais, on a la marque Quartz qui est fabriquée sur la rive sud de Montréal. Ensuite de ça, on a aussi Valanga, qui est à Saint-Hyacinthe. Haute-Vic, qui est aussi une entreprise québécoise. Donc, on essaie d'avoir le plus possible des produits québécois. Mais c'est certain que pour les besoins des clients, on achète aussi d'autres marques, parce que c'est pas tout le monde qui veut exactement ça. Là. Mais on tente de garder les marques québécoises le plus possible.
Diriez-vous que de chez vous, Fourrure Grenier, quel est votre principal vendeur? Moi, dans ma tête de gars, je me dis, ça se peut pas, ils ont pas uniquement que les bottes. Il y a tellement de produits que vous faites. On vient de parler là, pendant quelques minutes des produits de fourrure. Il y a certainement des choses qui reviennent année après année qui sont des must.
C'est certain que la botte de fourrure, c'est l'article. Par contre, dans nos produits qui sont les plus populaires, on a la mitaine de ville. Au tout début, on fabriquait plus une mitaine motoneige. On la fabrique encore d'ailleurs, une mitaine plein air. Puis, tranquillement, on s'est mis à fabriquer, on appelle la mitaine de ville, qui est pratiquement toute en cuir. Elle a juste un petit collet de fourrure, mais elle est quand même doublée de peau de mouton. Donc, ce produit-là, il est très populaire parce que c'est chaud, c'est pas trop gros. Les femmes, elles peuvent mettre ça dans leur sac à main quand ils vont magasiner. Si t'es quelqu'un qui aime beaucoup le plein air puis marcher, ben c'est du cuir d'encre, l'air passe pas à travers le cuir, c'est très chaud.
Exactement, là, exactement. Donc, là.
Oui, ça, c'est un bon produit. Puis, au cours des deux dernières années, c'est certain que les tucs avec des pompons de fourrure, c'est devenu très populaire. Je ne dis pas que ça va être populaire toute la vie, contrairement aux bottes de fourrure. Sauf que là, présentement, c'est un petit peu la folie. Hein? On en vend beaucoup. Puis, un des articles aussi qui monte en popularité, c'est des pantoufles de mouton. Donc, on fabrique des pantoufles, un cuir, on colle le mouton sur le cuir, puis on fabrique en dessous de ça la pantoufles avec ça, avec un col de fourrure. Il y a beaucoup de pantoufles de mouton sur le marché, mais on est les seuls qui fabriquent une pantoufle de mouton avec un col de vrai fourrure.
Madame Grenier,
ça a quand même un look.
Madame Grenier, rapidement, quelqu'un qui veut voir vos produits et se mettre en appétit, je présume que vous avez un site Internet que les gens peuvent consulter.
Bien sûr, Fourrure Grenier, fourrure avec un S, grenier tout ensemble.ca.
Donc, fourrure avec un S, grenier.ca. Manquez pas ça. Ben, écoutez, Mme Grenier, des Fourrures Grenier, je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Et on en profite également pour dire aux gens, les fêtes s'en viennent, pourquoi pas en profiter? Justement, aller faire un tour sur fourrure grenier avec un S.ca. Et je vous le dis tout de suite, si moi, ça m'a convaincu, je pense que messieurs, ça va faire un très, très beau cadeau pour madame. Du moins, vous allez la tenir au chaud. Merci beaucoup, Mme Grenier de Fourrure Grenier. Bougez pas à la maison. Restez là parce qu'on s'en va rejoindre Guy Martin sur Simplement plein air.
Bonjour, ici André Saint-Georges, agent de communication chez Tourisme Outaouais et vous écoutez Simplement plein air.
Well, I caught my wife with another man and it cost me 99. On a prison farm in Georgia, close to the Florida line. Well, I've been here for 2 long years. I finally made the warden my friend. And so he sentenced me to a life of ease, taking care of old Red. Now old Red, he's the damnedest dog that I've ever seen. Got a nose that can smell a two-day trail. He's a four-legged tracking machine. You can consider yourself mighty lucky to get past the gators and the quicksand vets. But all these years that I've been here, and nobody got past Red. And the warden sang, come on somebody, why don't you run? Old Red's itching to have a little fun. Get my lantern, get my gun. Red'll have your treat for the morning come. Well, I paid off the guard and I slipped out a letter to my cousin up in Tennessee. On he brought down a blue tick hound. She was pretty as she could be. Well, they pinned her up in the swampland, about a mile just south of the gate. And I'd take old Red for his evening run. I'd just drop him off and wait. And the warden sang, come on somebody, why don't you run? Old Red's itching to have a little fun. Get my lantern, get my gun. Red'll have your treat for the morning come. Now old Red got real used to seeing is a lady every night. And so I kept him away for 3 or 4 days and waited till the time got right. Well, I made my run with the evening sun, and I smiled when I heard him turn Red out. As I was headed north to Tennessee, and old Red was headed south. Come on somebody, why don't you run? Old Red's itching to have a little fun. Get my lantern, get my gun. Red'll have your treat for the morning come. Now there's red-haired blue ticks all in the south. Love got me in here and love got me out.
Êtes-vous prêt? Asseyez-vous confortablement et ouvrez bien vos oreilles. Simplement plein air est de retour.
Et nous voici de retour en studio, cette fois avec notre ami M. Pascal Auger de Québec-Compostelle. Ça marche, Pascal?
Hey, ça marche. Puis écoute, moi, je suis toujours surpris de voir qu'il y a des gens qui sont là, qui nous écoutent. Moi, je suis là pour les faire marcher dans tous les sens du mot. Hein. Alors, on se met en forme, puis on bouge. Il y en a qui ont comme une peur de ça, marcher. Hein. Surtout pendant la période des fêtes, là, les gens, ils se battent pour avoir le stationnement le plus proche du centre d'achat. Là.
Effectivement. Mais quelle belle activité. Ils savent pas ce qui manque, hein, réellement, là.
Écoute, stationnez-vous loin, loin, loin. Tu sais, moi, on n'avait pas prévu ça, mais j'avais déjà même pensé faire un espèce de mouvement. Tu sais, quand on va dans des usines, des fois, les premiers stationnements en avant, très souvent, là, c'est le directeur, le vice-directeur. On devrait tout mettre ça en arrière, ce beau monde-là, puis montre l'exemple à leur employé.
Absolument. Et
tout le monde marcherait pour se rendre jusqu'à l'usine.
Oui, il faut... Moi, je suis de ceux qui se stationnent le plus loin possible.
Ben, bravo, mon ami, bravo.
Ah, oui, j'ai toujours fait ça. Même mon épouse fait la même chose, le plus loin possible. Mais là, quand on parle de plus loin possible, ben, on peut parler loin, d'un grand sentier, hein, le sentier international des Appalaches.
Ouais, écoute, je te dirais qu'en Amérique du Nord, c'est peut-être le deuxième plus grand, parce que j'en avais déjà glissé un mot, puis un moment donné, on va y revenir, là, le grand sentier transcanadien qui, lui, traverse tout le pays. Mais le sentier international des Appalaches, qui est vraiment trippant avec lui, c'est que, bon, il y en a une partie chez nous, à travers le Québec, à travers le Canada. Mais tu vois, pour préparer notre chronique aujourd'hui, je savais que le sentier se rendait jusqu'en Caroline du Sud, Caroline du Nord. Mais là, en faisant des recherches supplémentaires, je vois même qu'on peut se rendre jusqu'en Floride. Imagine-toi partir randonner partir du Québec puis se rendre jusqu'en Floride. Il y en a plusieurs qui font ça à cette période-ci de l'année. On les appelle les snowbirds, mais eux, ils se promènent plus en VR. Hein? C'est pas tout à fait la même chose.
Pas tout à fait.
Mais tout ça pour vous dire que si ça vous tente de triper, c'est d'ailleurs le premier GR en Amérique du Nord. GR, ça veut dire un chemin de grande randonnée. Je dis le premier parce que en Europe, il y en a plein des GR, des chemins de grande randonnée. Celui-ci, ben, ce qui est fun, ce qui est trippant, c'est qu'il passe entre autres dans la magnifique région de la Gaspésie. On est plusieurs, on est nombreux d'être déjà allés à travers la Gaspésie. Puis le plus souvent, ça se passe en voiture. Il y a quelques chanceux qui l'ont déjà fait en décapotable ou encore comme moi en moto, mais imagine traverser la Gaspésie à pied. On a de magnifiques montagnes là, à travers la Gaspésie. Alors, le Sentier international des Appalaches du Québec couvre plus de 650 kilomètres de sentiers, commence dans la vallée de la Matapédia, donc juste à l'arrivée, si tu veux, là, du Nouveau-Brunswick, et se poursuit là, vers Amqui avant d'atteindre la réserve de Matane. Il franchit le parc de la Gaspésie, dont les monts Albert et Jacques Cartier, puis redescend vers Mont-Saint-Pierre et longe ensuite là, le fleuve pour se rendre à travers des villages comme ça jusqu'au Parc national Forillon et terminer au phare de Cap Gaspé. Alors, une partie un peu plus sauvage, ça qu'il faut savoir. T'sais, j'en parle aujourd'hui, c'est un petit peu plus loin des randonnées qu'on est habitué à la Compostelle en Europe ou encore ici au Québec, les chemins qui sont influencés par Compostelle, parce qu'il y a une partie du Sentier international des Appalaches qui est ce qu'on appelle plus en autonomie. C'est-à-dire que ça se peut que pendant 2-3 jours, une semaine, que tu vois pas un être humain. Donc, il faut que tu apportes un petit peu plus de bagages, il faut que tu apportes ta tente, tu apportes tes chaudrons, si tu veux un peu plus de nourriture, un bon sac de couchage, etc. Donc, une portion de celui-ci. Sauf que quand tu arrives sur le bord du fleuve, évidemment, rendu là, on l'appelle presque la mer, là, ben là, tu passes à travers des villages, là, ça ressemble. Donc, c'est un beau trip. Ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. Vous pouvez faire les deux, plus en autonomie, puis plus à travers les villages. Mais ce qui est magnifique là-dedans, c'est qu'on a la chance de passer à travers la Gaspésie à pied, en randonnée. Donc, le Sentier international des Appalaches, je vous mets un lien, c'est disponible sur notre site internet québeccompostelle.com, mon cher.
Oui, ça devient de plus en plus populaire, hein, les GR, les grandes randonnées comme ça. On le voit, comme tu le dis, beaucoup plus en Europe. Mais ici, on commence à apprivoiser. Oui, c'est ça, apprivoiser les GR, les grandes randonnées. Mais de ça vient une chose que tu veux nous parler, c'est bien des sacs de couchage.
Oui, puis je vous donnerai pas le de marque, je vous laisse choisir par vous-même, puis je vais surtout pas commencer à faire de la publicité. Il y en a en plus tellement, vous allez rentrer dans votre magasin de plein air préféré, puis il y en a une tonne. Ce que je veux surtout vous dire, quand vous faites de la randonnée pédestre de longue durée, comme Compostelle au Québec ou encore en Europe, on n'a pas besoin d'avoir là un sac de couchage pour du moins 20. T'sais, on s'en va pas dans l'Arctique, ça c'est sûr. Par contre, si on y va au printemps ou à l'automne, bon, on veut généralement avoir un sac qu'on appelle à peu près là, du 5-7 degrés, parce qu'en réalité, on va être confortable autour de 10-12 degrés. Et quand on va au printemps ou à l'automne ou à l'été en Europe, ben, il n'y a pas de problème. Généralement, au Québec, on ne dort pas dehors. Là. C'est ça qu'il faut oublier. Il ne faut pas oublier. On dort dans des auberges, donc on est à la chaleur. Et très souvent même, si on va en Europe en plein été, on n'aura peut-être pas besoin de sac de couchage. On peut avoir tout simplement ce qu'on appelle là, un liner ou encore un drap. C'est tout simplement un petit drap dans lequel on se glisse, surtout en plein été. C'est moins chaud, c'est plus agréable. Personnellement, j'aime toujours avoir mon sac de couchage. Tout d'un coup, qu'il y a une petite nuit un peu plus fraîche ou encore c'est plus versatile. On peut s'en servir un petit peu plus dans l'année. Et surtout, ce qui est important et à retenir, c'est d'avoir un sac de couchage qui est très petit. T'sais, on est habitué aux gros sacs de couchage, là, finalement, là, qui sont énormes. Mais quand on fait de la randonnée, on veut que ce soit petit et on veut que ce soit le plus léger possible. Et genre, le truc, c'est qui va se compresser, là, qui va vraiment pas prendre trop d'espace. Donc, un sac de couchage, là, c'est quoi? Environ un livre et demi. Là. C'est vraiment très, très léger pour avoir de la qualité. Et ça, ben, vous allez mettre environ... si vous êtes chanceux, vous pouvez en trouver un en spécial autour de 100$. Mais ça, évidemment, il faut courir un peu les ventes. Mais un sac de couchage de qualité, c'est facilement là, dans les 200-250$. Alors ça, évidemment, ça embarque là, dans vos dépenses de de voyage. Mais comme d'habitude, j'essaie toujours de vous trouver des prix le plus abordable possible. Donc, c'est pas exagéré, là, un sac de couchage à 200 $. Je le sais, vous allez en trouver à 50 $ en spécial dans vos magasins de grandes chaînes des fois, mais on parle pas du tout de la même affaire, là.
Ouais, non, c'est pas la même chose du tout, du tout. Et écoute, Pascal, qu'est-ce qui s'en vient chez vous, chez Québec Compostelle?
Bien, on poursuit toujours, évidemment, nos formations, nos conférences. Comme je vais plaît le dire, on peut être partout à travers le Québec. On se déplace pour vous. On peut les faire également par Internet. Alors, si vous voulez qu'on passe dans votre coin, bien, vous pouvez vous informer directement sur notre site Internet. Informez-vous à votre bibliothèque, centre communautaire. On peut aller les faire là. Prochain atelier, prochaine conférence, bien, le 7 décembre, on sera à Saint-Jean-sur-Richelieu avec Rando Passion 101, l'initiation au chemin de Compostelle au Québec et en Europe également. Et puis, à venir, en 2018, il y a les ateliers également qui vont prendre place. Alors, ça vous tente d'en savoir davantage. Une initiative à vocation sociale, Québec Compostelle, bien, c'est un service indépendant et personnalisé de préparation de randonnées pédestres. On fait trois choses, dans le fond. On fait de la formation et de la préparation pour vos randos. On fait la promotion des chemins du Québec. C'est important de parler de chez nous puis de découvrir ce qu'il y a de beau chez nous également. Et on encourage le développement d'un grand chemin communautaire de randonnée, le chemin du Québec qu'on appelle entre Montréal et le phare de Cap-Gaspé. Vous allez trouver toutes ces informations, trouver votre atelier aussi sur le site internet québeccompostelle.com. Comme je le disais, on se déplace pour vous. Tout ça est sur Facebook également, Instagram et sur notre chaîne YouTube.
Yes, sir. Et nous, on se retrouve, Pascal, la semaine prochaine. Bonne semaine. Vous aimeriez entendre parler de votre région sur Simplement plein air? Rien de plus facile. Un simple courriel à info@simplementplein-air-simplyoutdoors.ca. Je répète, vous nous envoyez un courriel à info@simplementplein-air-simplyoutdoors.ca, car parler de vous, c'est ce que Simplement plein air fait de mieux. Donc, contactez-nous sans plus tarder et ça va nous faire un grand plaisir de discuter avec vous de votre région.
Simplement plein air, pour les amants de plein air.
Passera sur notre histoire.
Oh, no.
De retour à Simplement plein air avec Guy Martin.
Et nous voici de retour en studio. Cette fois, comme à l'habitude chez Simplement plein air, on ne recule devant rien. Nouvelle chronique, on vous introduit cette semaine Monsieur Marc Prince de la boutique Pro Nature Rouyn-Noranda. Salut Marc.
Salut Guy, comment ça va?
C'est vraiment plaisant. On est en studio et puis on est en pleine tempête de neige et on va parler d'une belle boutique chaleureuse qui est le Pro Nature de Rouyn-Noranda. Écoute, Marc, ça fait longtemps que t'es revenu, ben pas revenu, on devrait pas dire revenu, mais que tu es chez Pro Nature.
J'ai un pied dans la boutique, ça doit faire près de 2 ans. Je faisais l'entretien puis la réparation de l'USA, mais officiellement, là, à plein temps, là, ça doit faire alentour de 4-5 mois.
Oui, 4-5 mois. Puis là, quand on parle de l'avenue de M. Marc Prince, on sait que Marc, pour les gens qui sont un peu habitués dans le coin, ceux qui ne le sont pas, Marc affectionne beaucoup le tir à l'arc ainsi que sa fille Cynthia. Donc, Marc t'amène beaucoup cette facette-là hein, chez Pro Nature.
Moi, en premier lieu, j'ai été engagé comme technicien dans l'archerie, c'est sûr. Je m'élargis dans l'arbalète aussi. J'ai un bon 25 ans de bagage dans l'archerie, fait qu'on connaît un petit peu la recette du poulet, comme on dit.
Oui, hein, puis c'est ça que je voulais mentionner aussi. Plusieurs gens savent pas que chez Pro Nature Rouyn-Noranda, en plus de faire la vente, justement grâce à une personne comme toi, on peut maintenant faire le service, mais quand on parle du service sur un arc, admettons, on parle de quoi?
Nous autres, ce qu'on peut faire, là, c'est un entretien complet. On peut faire le changement des cordes. S'il y a du tranche-fil de brisé, ça peut se refaire. On peut faire démanteler l'arc, la remonter, la nettoyer au complet, faire l'ajustement, le fine-tuning qu'on appelle. On passe les flèches dans le papier. À peu près n'importe quoi ce que les gens ont besoin. On offre le service dans l'archerie.
Donc, vous pouvez le faire aussi. Et on sait qu'on a tourné ensemble dernièrement aussi le nettoyage d'un arme à feu. Oui. Hein, avant le remisage, très important. Puis ça, j'encourage les gens à aller le visionner. Mais c'est un service que vous offrez aussi. Là.
Oui, on offre ça aussi présentement. C'est quelque chose qui n'est pas vraiment compliqué à faire. C'est pas dispendieux. Ça dépend toujours de l'arme, mais ça vaut vraiment la peine d'aller conserver votre investissement pendant longtemps.
Oui, c'est justement parce qu'on sait qu'une arme, ça a besoin d'un entretien pour bien fonctionner. On ne peut pas arriver puis la mettre dans notre coffre et puis la laisser là. Malheureusement, il y a bien des chances que ça rouille et puis qu'on perde quand même un bon investissement, comme tu dis.
Il y a beaucoup de gens que c'est ce qu'ils font.
C'est
après,
ça.
Après, à la chasse, on l'entrepose carrément dans l'étui, ce qui n'est pas vraiment conseillé. Toute la cochonnerie qui a pu rentrer dedans, que ce soit l'eau, l'humidité, les graines de sapin. Bon, on sait souvent, en forêt, on prend pas soin de notre arme. On bourrasse ça un peu, comme on dit.
Oui, c'est ça. C'est ça. Puis donc, en plus de l'arc, on retrouve les armes aussi chez Pro Nature. Mais il n'y a pas juste ça. Parce que là, quand on parle plein air, il y a une gamme assez complète, même que moi-même, j'ai resté surpris en visitant le magasin, puis j'étais déjà familier, mais là, quand on porte plus attention, on voit le vêtement aussi, on voit, hein?
Oui, je te dirais que depuis la dernière année, le Pro Nature de Rouyn-Noranda a beaucoup, beaucoup, beaucoup changé.
Ouais,
on est vraiment à l'écoute des clients. Ce qu'on a en magasin, c'est vraiment ce que les clients demandent. On rentre du nouveau stock à toutes les semaines. Il y a des nouvelles accessoires qui arrivent, du nouveau vêtement, des nouveaux gadgets. C'est vrai, on est vraiment à l'écoute des clients.
Oui, puis moi, j'ai été assez surpris de voir Under Armour.
Oui, on a commencé à rentrer la ligne Under Armour. Ça rentre tranquillement, c'est le fun.
Ça, c'est vraiment un vêtement de qualité aussi. On a toujours des vêtements de qualité, naturellement, chez Pro Nature ou Rouyn-Noranda, là. Mais j'ai remarqué aussi des pantalons hivernales là, pour la chasse, même juste pour la randonnée, le skidoo.
Oui, on a un peu de tout, hein? Des bonnes bottes de skidoo vraiment chaudes, des bottes qui vont jusqu'à moins 60, des ensembles de motoneige au complet. On a des sous-vêtements techniques, vraiment là, une gamme là, pour plaire à tout le monde.
Ça me remémore un fameux boxeur de bambou.
Oui, on a des caleçons en bambou.
C'est vraiment
confortable.
Vraiment doux.
Ouais, c'est vraiment confortable.
Oui. C'est pour dire qu'on trouve de tout, mais il y a aussi
Pour madame, moi j'ai remarqué en rentrant, il y avait, écoute, des superbes pyjamas, des tucs.
Ouais, on a des pyjamas à longueur.
Ouais, des c'est, vrais, là.
On a pour les enfants, on a pour les dames, puis on a pour les messieurs. C'est vraiment du beau linge, ça se vend tout seul. Au côté de ça, on a notre arbre à tuc à Nancy.
Ouais, l'arbre à tuc à Nancy. Ouais. Puis qu'est-ce que j'aime beaucoup aussi, le fait, on vous a mentionné les dessous de bambou fabriqués au Québec. Les, justement, pyjamas et tout ça, c'est fabriqué au Québec.
Ouais, ouais.
Donc, c'est tous des produits, pas tout au complet, c'est sûr, mais les produits qu'on vient de mentionner, là, c'est des produits qui sont faits ici. Donc, c'est vraiment plaisant. Ça encourage notre monde du Québec ici, nos fabricants, qui, soit dit en passant, font un très bon travail, là, parce qu'on voit, si vous n'avez pas vu les pyjamas, là, ça, c'est un bijou. Puis l'arbre à tuc à Nancy aussi.
Nancy, c'est... Pour ceux qui ne connaissent pas Nancy, c'est notre directrice. Nancy, s'il n'y aurait pas de Nancy à Rouen, il n'y aurait pas de Pour Nature. On t'aime, Nancy.
Oui, il faudrait l'inventer. Hein?
Ouais, ouais.
Et puis, il y a une autre chose aussi que je ne veux, pas passer outre. C'est le fameux mur à cadeaux. Le pour Noël, là, c'est un mur, un incontournable, ça.
Oui, vraiment, on a un coin à cadeaux. Ça passe du set de couteaux à steak camouflage par le jeu de cartes, les bols à fruits en forme de pâte d'ours, des casse-têtes.
C'est tellement beau.
Faut vraiment venir voir.
Oui, puis la preuve, j'ai le support à sous-verre et les sous-verres ours dans mon bureau.
Vraiment joli.
Oui, ils sont directement là. Puis aussi le chevreuil et les orignaux qu'il y a là, là. Oh là là, c'est vraiment là. C'est un travail bien fait. Et encore là, c'est pas du made in Taiwan, mais c'est bien de chez nous aussi.
Exactement.
Pour la plupart. C'est sûr qu'il y a peut-être des choses, mais c'est tellement beau, tellement bien fait. Là. Ça vaut le détour. Mais là, quand on parle de détour, on parle naturellement, la Pro Nature Rouyn-Noranda sise sur la rue principale, au 59 principal, c'est bien ça?
Exactement.
Et puis, on a un Facebook?
Oui, on a une page Facebook au nom de Pro Nature Rouyn-Noranda. Je vous invite à te visiter. Vous allez pouvoir suivre nos spéciaux. On a des bons spéciaux là, qui sont régulièrement à chaque mois.
Oui, chaque mois. Puis c'est vraiment, il y a vraiment des bons spéciaux, effectivement. Aussi, au téléphone, si vous voulez plus d'informations, 819-797-2300-2300. Vous visitez le Facebook ou, encore mieux, on se rend en boutique, on va faire un tour. On va serrer la pince à tout le monde. Et dans les semaines qui vont suivre, vous allez entendre Marc de plus en plus. Là, on a fait une introduction, comme on peut l'appeler, si on peut l'appeler ainsi. On va entrer plus en détail de différentes choses. Il va y avoir des descriptions de produits. Au niveau vidéo aussi, à ne pas manquer les chroniques de Marc aussi. Vous allez voir, on fait des chroniques. Ils vont apparaître sur le Facebook de Simplement Plein Air, aussi sur www.simplementpleinair-simplyoutdoors.ca. Vous allez les voir à toutes les semaines. Il va y avoir une chronique, que ce soit sur le nettoyage d'une arme à feu. Là, c'est les deux premières qu'on a pour l'entreposage.
Exactement.
Ensuite, on va parler de tranche-fil, on va parler de différentes choses d'arc, la maintenance d'un arc, d'une arbalète et toutes ces choses-là. Donc, au fil des semaines, à ne pas manquer, et puis on va rentrer plus dans le vif du sujet, comme on dit. Donc, Marc, j'espère que j'ai pas été trop dur la première fois.
Non, ça s'est bien passé. Je m'excuse, mon bafouillement, c'est ma première fois. On devrait
Aucun bafouillement. Vous allez voir sur les chroniques aussi, Marc, ça va très bien. Donc, merci beaucoup, mon cher, et on se revoit où?
Pro Nature Rouyn-Noranda.
Super. Donc, c'est un rendez-vous là-bas.
Merci.
Salut tout le monde.
Simplement plein air, pour les amants de plein air.
Like Grandma and Grandpa used to play. Then I'll float on down the river to a Cajun hideaway. Rip away like Tom Sawyer, ride around with old Huck Finn. Take a nap like Rip Van Winkle. They dreaming again. Some mountain
man. Cause that's where music has to start. Oh, play me some mountain music like Grandma and Grandpa used to play. And I'll float on down the river to a Cajun hideaway. Hey, hey.
Une grande aspiration. Vous sentez l'air frais? C'est l'effet simplement plein air. Du plein air jusque dans votre salon.
Et nous voici de retour en studio. Cette fois, on va grimper, mais on va grimper sur la glace avec notre ami Serge-Alexandre de Mergeroux. Salut!
Salut Guy, comment ça va?
Ça va très bien. Écoute Serge, on a commencé à parler escalade de glace, mais là, ben c'est
oui,
bien beau.
Le temps qu'il fait, hein, on n'a pas le choix. C'est là qu'on est rendu avec le temps de l'année.
Il fait fret, mais il faut de l'équipement pour commencer à grimper. Donc, écoute, tu vas nous présenter ça en main de maître ou avec des grappins dans les pieds ou whatever. Je te laisse
whatever,
aller.
Je te montre ça, mon Guy.
Ça marche.
Écoute, une des choses qui fait, je te dirais, la popularité ou peut-être plus qui pique la curiosité des novices là, pour l'escalade de glace, c'est nécessairement l'équipement. Tout le monde trouve ça impressionnant parce qu'on se promène avec une corde, une simple corde dans le fond qui nous tient après la paroi, puis avec des choses assez coupantes au bout des mains puis au bout des pieds. Ça fait, je te dirais, voyager l'imaginaire, puis souvent on se demande un peu, bon, mais qu'est-ce que ça me prendrait moi pour commencer ou essayer cette escalade de glace-là? L'envers de la médaille, je te dirais, Guy, c'est que tout cet équipement-là coûte assez cher. Il y a certains moyens de s'équiper pour moins cher, ça reste assez onéreux quand même, mais c'est d'y aller dans l'équipement usagé, ça c'est sûr et certain. Il y a plein de groupes sur Facebook pour les gens qui voudraient regarder ou simplement voir un peu les types d'équipements d'escalade qu'il y a à vendre. Il y a des gens qui vont vendre de l'équipement aussi sur Kijiji, mais reste que dans le neuf, il y a différentes gammes de prix. Mais souvent, quand je vais donner des conseils aux gens, c'est d'y aller avec des choses qui vont être à moyen, à très haute qualité, parce que on va pas aller racheter après, une fois qu'on a acheté, si je te dirais, le premier équipement. Par exemple, là, je vais te faire la démonstration aujourd'hui, on va partir des pieds vers la tête, parce que c'est là l'essentiel. Quand on est dehors au froid, souvent, c'est les pieds qui lâchent en premier, je te dirais, quand il fait froid. T'as déjà connu ça, j'imagine, t'as pas des bonnes bottes, tu sors dehors, puis la journée, c'est l'enfer. Hein?
C'est misérable après, là.
C'est misérable. Au pire, quand t'oublies ta tuque, t'as une vieille paire de bottes, t'arrives à te débrouiller pareil pour te faire un bandeau de fortune.
Oui, effectivement.
Une mauvaise paire de bottes, ça part mal. Donc, je pars avec les bottes. Les bottes, c'est sûr qu'il y a des bottes spécifiques pour l'escalade de glace. Une botte d'escalade de glace, c'est une botte qui va avoir une semelle complètement rigide. Donc, il n'y aura aucune flexibilité dans la semelle. Ça va supporter le pied en même temps que ça va permettre justement de tenir sur le bout des orteils. Parce que qu'est-ce qui va aller sous la botte d'escalade de glace? C'est nécessairement les crampons. On appelle ça les crampons. Même en anglais, c'est crampons. C'est des crampons qui vont avoir différents nombres de pointes qui vont être adaptés selon, je te dirais, l'escalade qu'on va faire. Il pourra y avoir plusieurs sortes de crampons avec des dents fixes, mais il y a surtout aussi des crampons pour certaines sortes qu'on peut ajuster aussi le nombre de dents puis la fonction pour laquelle on va l'utiliser. Donc, c'est des crampons qui vont avoir des pointes frontales interchangeables. Donc, je vais parler un peu de ça. Dans le fond, les bottes que vous allez surtout voir là en escalade de glace, c'est comme des bottes de randonnée qui vont se lasser assez serrées, qui seront pas très chaudes. Il peut y avoir des très grosses bottes qui sont plus chaudes, faites pour la montagne, mais c'est pas l'essentiel puis c'est pas, je te dirais, souhaitable pour l'escalade de glace parce qu'on veut avoir plus d'aisance dans le mouvement. On veut pas avoir de l'équipement trop lourd non plus. Donc, on va y aller vers une botte un peu peu plus petite, mais quand même très, très, très rigide. Puis ces bottes-là tournent dans les alentours, je veux dire, entre 4 et 800 $. Donc, tu vois déjà là, en partant, ça commence à faire mal pour une paire de bottes. Mais on n'achètera pas une mauvaise, tu sais, une paire de bottes qui ne sera pas adaptée, parce que si on paye 350, par exemple, pour une bonne paire de bottes de randonnée, ben après ça, l'année d'après, quand on va être rendu un peu meilleur, on va vouloir la bonne botte technique. On va être obligé de redébourser un autre 500-600 $ pour la racheter. On est aussi bien d'y aller avec une bonne paire de bottes qui fit bien à son pied, puis qui, dans le fond, va nous servir pendant 6, 7, 8 ans après si on y fait quand même assez attention. Il y a différentes compagnies qui vendent ces bottes-là, donc c'est assez facile de les trouver là, sur les grands sites, les grands magasins, par exemple, comme la Mountain Equipment Co-op en ligne ou la Cordée en ligne, même. Donc, je pense que c'est les deux seuls que vous allez voir des bottes d'escalade de glace, parce que c'est quand même des choses assez techniques. Donc, on verra pas ça dans les petits magasins plein air là, de ville, mettons, un peu plus reculés. Pour ce qui est de la grandeur, parce que c'est quand même assez important aussi de parler de la grandeur, parce que puisqu'on va être sur le bout des orteils pratiquement tout le long de la montée, si notre botte est trop grande, qui ferait en sorte qu'on serait un peu plus à l'aise dedans. T'sais, on s'entend, Guy, quand on met une botte, si elle est un peu plus grande, on a de la place, il y a de l'air qui circule, ça fait de la chaleur, puis on est bien au chaud.
Oui.
Mais là, malheureusement, il faut faire un compromis ici avec l'escalade de glace, parce qu'on va avoir une botte qui est assez serrée, il faut pas que le talon bouge dans sa botte. Donc, ça va être des bottes adaptées où ce que ça va serrer pratiquement vers le haut du pied et sur la cheville pour s'assurer que quand on va prendre appui sur le bout des orteils, notre pied va pratiquement toujours à plat. Pas qu'on ne sera pas dans une position sur la pointe des pieds dans notre botte. Tu comprends ce que je veux dire un peu?
Oui, puis ça pliera pas non plus, hein. Le bout,
ça
là,
pliera pas, parce que je te dis, ça peut être le lendemain, hein? Tu seras plus capable de monter les marches, ça, c'est sûr et certain. Si ta botte plie, puis si tes talons montent dans ta botte, ça va être un enfer. Tu vas avoir deux tisons d'un mollet après environ 5 minutes d'escalade. Ta journée va juste être pénible. Ou toute ton expérience, à vrai dire, va être pénible, puis tu vas dépenser ton argent absolument pour rien. Donc, si on va du côté des crampons maintenant, qui va aller sous la botte, c'est les crampons qui vont s'attacher. Il y a plusieurs modes pour attacher les crampons. Il va y avoir les crampons qui sont plus universels, donc ça va être des sangles qui vont pouvoir s'adapter à la botte, même si je vais revenir à la botte, à vrai dire, Guy, parce qu'il y a des choses spécifiques pour la botte, qu'est-ce qui est de la pointe de la botte puis du talon. Tout le monde connaît les fameuses bottes de ski. Il y a les bottes d'escalade de glace. Souvent, ils vont avoir ce qu'on appelle un bec en avant puis un bec en arrière, dans le fond, pour permettre justement à des crampons spécifiques, plus techniques, de s'agripper directement à la semelle. Certaines bottes de montagne puis d'escalade de glace vont simplement avoir le bec en arrière, ce qui va faire en sorte qu'on va être obligé d'acheter un crampon qui va s'adapter à ce type de botte-là. C'est important, cette chose-là. Donc, faut voir, quand on achète notre crampon, est-ce qu'il fait sur la botte que j'ai choisie qui fait bien mon pied? Donc, c'est important d'apporter ses bottes quand on va venir pour acheter des crampons. Souvent, ça va se faire en même temps. C'est encore une bonne journée d'achat. Si tu n'as pas encore fait ta liste de cadeaux Noël, je pense que tu es aussi bien de mettre ces deux éléments-là ensemble puis de rien rajouter. Ça va clore, ça va clore ta liste pour cette année.
Oui, pour cette année, ça va effectivement. Là. Mais là, ne s'y aventure pas la personne avec nos fameux crampons qu'on achète dans les grandes surfaces. On ne touche pas
non,
à ça.
Non,
là.
On achète les grandes surfaces, les petites chaînes qu'on met en dessous des souliers pour ne pas glisser. En sortant de son auto, c'est pas la même chose. Ou pour faire de la randonnée, dans le fond, sur des petites tentes de glace, c'est vraiment pas la même chose. On parle d'un crampon là, avec une armature tout en métal, des pointes en acier trempé, donc des pointes qui vont pouvoir même s'aiguiser au fur et à mesure que tu vas taper dans la roche par erreur tu vas les user dans du pierrier, par exemple. Donc, c'est des crampons qui sont vraiment faits pour l'escalade de glace, pour la montagne. Puis même là-dedans, il y a des crampons qui sont simplement faits pour le névé et la pente de neige raide. Donc, des crampons qui vont peut-être être en alliage d'aluminium, qui vont s'user extrêmement vite dans la roche, puis il va y avoir des crampons qui vont être en acier plus lourd, mais qui vont pouvoir permettre de grimper des cascades de glace verticales, donc avec des grosses pointes en avant, des pointes assez longues. Il y a toute une diversité, mais en même temps, c'est pas si compliqué une fois qu'on les a devant nous. On comprend assez bien qu'est-ce qui va être pour l'escalade de glace, qu'est-ce qui va être pour la neige, puis qu'est-ce qui est fait pour la randonnée, tout simplement.
Quelle belle activité, par contre. Le temps passe tellement vite. Je te dis, Serge, il va falloir qu'on double nos chroniques. Là,
on va doubler nos chroniques, Guillaume.
On va les faire à 15 minutes.
La semaine prochaine, on ira vers les mains puis les piolets.
Oui, absolument. Écoute, Serge, si on veut aller jouer dehors, si on veut plus d'informations, on le fait de quelle façon?
On me rejoint sur Facebook ou sur mon site à dehors.ca. Ça va me faire plaisir de répondre à toutes les questions. Donc, la saison fait juste commencer, puis les chroniques et les différentes informations vont suivre au courant de la saison. Je dis à tout le monde de me rejoindre là.
Vous aimeriez entendre parler de votre région sur Simplement plein air? Rien de plus facile. Un simple courriel à info@simplementplein-simplyoutdoors.ca. Je répète, vous nous envoyez un courriel à info@simplementplein-simplyoutdoors.ca, car parler de vous, c'est ce que Simplement plein air fait de mieux. Donc, contactez-nous sans plus tarder et ça va nous faire un grand plaisir de discuter avec vous de votre région.
De l'information, des nouveautés, des trucs, Simplement plein air, c'est tout ça et beaucoup plus.
Sitting with you in a dark room, warm by a fireplace. You know there's just something about you. You brighten my day. I got something to run past you. I just hope I say it right. So I take your hand and ask you, have you made plans for the rest of your life?
There's one thing I should be killing off and giving up now, and that's worrying about life. Oh, I'll be fine. If one gray hair shows, I'll be fine. If my waistline goes, I'll be fine. Even if time takes its toll, we'll stay young for the rest of our lives.
I've been making plans for children. I've been looking in your eyes. I even have names picked out for them. Daughter, be Rose. Son, it be Ryan.
There's one thing I should be killing off.
Des nouveautés, des trucs, Simplement plein air, c'est tout ça et beaucoup plus.
Et nous voici de retour en studio, cette fois avec notre ami de Québec Ice Team, M. Félix Goulet. Salut Félix.
Salut Guy.
Hey, écoute, les temps froids sont arrivés, c'est le temps d'embarquer sur la glace, mais pas n'importe comment. Hein? Aujourd'hui, tu veux nous discuter du choix d'un plan d'eau pour nos premières sorties.
Exactement, Guy. Ici en Abitibi, cette année, on s'entend, l'hiver est arrivé assez rapidement. On a comme été un petit peu surpris. Puis, il m'est venu l'idée de cette chronique-là parce que à chaque début de saison, on se demande toujours, bon, ben là, la glace est-tu bonne? Puis, on peut-tu aller à la pêche? Puis, on a vraiment un choix ici en Abitibi-Témiscamingue d'un paquet de lacs. Mais il faut vraiment choisir ce lac-là en pensant sécurité. Hein. Si on veut continuer à profiter de cette belle activité-là, ben faut pas s'organiser pour se ramasser en dessous de la glace. Donc, en début de saison, ce que je recommande aux gens, c'est vraiment d'accéder premièrement à pied. On oublie en début de saison, là, on oublie la motoneige, on oublie le VTT, on accède à pied. Lorsqu'on accède à pied, on va avoir l'occasion de pouvoir tester notre glace, soit avec une hache, soit moi, j'évolue toujours sur la glace en marchant avec une tranche à glace, pour tester comme il faut notre glace. Trop souvent, je m'installe dans mes premières sorties de pêche sur glace, il y a 4-5 pouces de glace, la glace est suffisante pour supporter le poids d'un homme à pied. Trop souvent, il y a des gens qui viennent me voir, lorsqu'ils me voient sur la glace, ils viennent me voir avec leur motoneige ou avec leur VTT, en me posant la question, comment qu'il est fait de glace? C'est pas rassurant, parce que moi, j'ai pris mes précautions pour justement pas mouiller mes fesses, mais celui-là qui arrive aux côtés de moi en motoneige puis en VTT, ben, lui, il l'a pas vérifié. Il m'a vu sur la glace, ah, la glace doit être bonne. Non, non, non. On se fie toujours à soi-même. Avant d'embarquer sur la glace, on va vraiment accéder à pied. Donc, le choix du plan d'eau qu'on va faire, ben c'est un plan d'eau qui nous donne la possibilité d'accéder à pied et qui a des secteurs de pêche à proximité qui vont nous permettre de pas trop marcher longtemps. Parce que c'est sûr et certain que si on marche 200 pieds puis on accède à un bon secteur de pêche, ben il n'y a pas trop de danger. Mais si on est obligé de faire 4 km sur la glace, ben, ce 4 km-là, il y a des bouts, la glace peut être bonne. Il y a d'autres bouts, la glace, elle peut être trop mince.
Oui, c'est ça, Félix Excru. Je voulais juste intervenir. Oui. Explique-nous donc un peu, tu sais, parce que là, on parle, la glace peut être moins bonne et tout. Ça serait, pour quelle raison, d'après toi, qu'elle serait moins bonne?
Ben, c'est un paquet de facteurs, hein. C'est un... Le facteur de profondeur de l'eau, ça peut être un facteur de courant, surtout si on a eu des grandes pluies à l'automne avant que les plans d'eau gèlent. Ça peut être un facteur de... Tu sais, souvent, les premières fois qu'on va avoir, ben la glace va prendre en bordure du lac. Des fois, ça va être gelé 2, 3, 4, 500 pieds le long du lac. Mais après ça, le centre du lac, ça va prendre plus de froid pour le faire geler. Donc, si on reste à proximité de la rive, la glace, elle va être plus épaisse que plus au large. Donc, il y a un paquet de possibilités. L'autre fois, le lac peut geler. Après ça, il peut venir un gros vent qui va faire déprendre la glace plus au centre du lac. Donc, c'est un paquet de facteurs qui font que la glace peut varier en épaisseur au fur et à mesure qu'on avance dessus. Donc, tous ces facteurs-là, à un moment donné, quand on accède la journée même sur la glace, bon, on se souvient pas de tout ça, là. Puis surtout qu'on n'est pas toujours stationné en avant du lac à regarder comment il a gelé puis tout ça. Donc, faut vraiment y aller prudemment. C'est pour ça que je recommande aux gens, autant que possible, il y a plein de possibilités de, on arrive sur le bord du lac avec notre véhicule ou avec notre VTT, notre motoneige, ben on laisse ça là, puis après ça, on marche vers notre secteur de pêche. Idéalement, on fait vraiment pas long. Pour pouvoir s'installer puis pêcher. Puis souvent, c'est à ce moment-là, on sera pas nécessairement dans les meilleurs secteurs de pêche, mais au moins, on va pouvoir mettre une ligne à l'eau, puis on va avoir une chance de prendre des poissons, des meilleures chances de prendre des poissons, mais comme je le disais tantôt, on fait pas les téméraires pour aller plus loin sur le lac parce que notre meilleur secteur de pêche est plus loin. Regarde, on se contente, on est en début de saison, on fait rien de commencer, on se contente de ce qu'on a, là.
Oui, puis on peut s'amuser. Écoute, il y a moyen de s'amuser, comme tu le dis, mettre une ligne à l'eau et on est tout à fait sécuritaire. Puis un autre endroit aussi que les pêcheurs, d'après moi, doivent éviter en début de saison, c'est les fameuses embouchures de rivières.
Ah, ben, les embouchures de rivières, puis je te dirais, Guy, les rivières en général. Les rivières, habituellement, comme je le disais tantôt, à l'automne, si on a eu des bonnes pluies, ben le niveau d'eau va monter, le courant va accélérer sur ces rivières-là, donc la prise des glaces va être plus difficile, ça va être retardé par le courant. Donc, tout ce qui est rivière, à moins que ça soit une grosse rivière avec un courant pratiquement faible ou pratiquement nul, là, à ce moment-là, c'est correct. Mais je te dirais que lorsqu'on va choisir le premier endroit où on va aller sur la glace, je te dirais que n'importe quel plan d'eau, mais vraiment dans le lac, dans une baie qui a été protégée des gros vents de l'automne, une baie pas trop profonde. Souvent, là, je vais pêcher dans des secteurs de 4, 5, 6, aller une dizaine de pieds d'eau maximum. À ce moment-là, ce qui arrive dans ces secteurs-là, c'est que vu que l'eau est moins profonde, ben l'eau va refroidir beaucoup plus rapidement à l'automne. Donc, c'est à ces endroits-là que la glace va prendre en premier. Donc, après 2, 3, 4 nuits de moins 10, 12, moins 15, ben ces secteurs-là, ils vont être la glace va être suffisamment assez épaisse pour pouvoir embarquer dessus.
Oui, c'est ça. Puis on sait très bien hein, que décembre amène ces soubresauts de température. Hein, c'est en dents de scie tout le temps. Donc, ouais. Un autre, c'est encore un autre, comment je dirais ça, là, une autre façon là, de vraiment là, sonner une alarme dans nos têtes, c'est que justement, avant de s'aventurer trop loin et d'être téméraire, il faut vraiment sonder le terrain parce qu'on peut avoir de méchantes surprises.
Oui, exactement. Puis, c'est la sécurité qui prime, c'est toujours ça qui va primer. Il ne faut vraiment pas être téméraire. Puis, encore une fois, abstenez-vous. Puis, souvent, là, on va voir des motoneiges. Là, à ce temps-ci, comme cette année, là, on a eu une bonne quantité de neige. Si on habite, Guy, là, ben, les motoneiges là, sont déjà partis. Puis, souvent, ben, les plus belles places pour aller se promener, c'est sur les plans d'eau parce que c'est une belle neige égale. S'abstenir de ça, là, c'est beaucoup trop dangereux. C'est sûr que les motoneiges qui vont extrêmement rapidement, il y a moins de danger, mais comme je dis souvent, à un moment donné, il faut que tu arrêtes. Tu n'as pas le choix. Là. Fait que,
c'est ça.
En début de saison, là, les 2, 3, 4 premières sorties que je fais sur la glace, c'est toujours à pied, comme ça. Puis, tu sais, la semaine passée, vous voyez, c'est ça, la semaine passée, on a parlé des vestes de flottaison, mais ben, c'était bien une bonne idée de la porter. Là.
Oui, c'est vraiment le temps de la porter, je dirais, s'il y a bien un temps sur la glace, là, pour faire attention. On veut revoir nos auditeurs. Ouais. Écoute, Félix, encore une fois, superbe chronique. Si on veut te rejoindre pour tes services de guide ou, écoute, pour justement avoir plus d'informations ou s'informer sur Québec Ice Team, on le fait de quelle façon?
Oui, bien justement, parlant de Québec Ice Team, j'invite les gens à nous suivre cet hiver. On va avoir encore un paquet de belles chroniques sur toutes sortes de sujets, une mine d'informations uniquement concentrées sur la pêche blanche. Fait que les gens peuvent me voir là, les gens peuvent nous poser des questions. On est très, très présents sur Facebook avec le Québec Ice Team. Si les gens veulent me réserver une journée de pêche cet hiver, ils n'ont qu'à consulter mon site Internet qui est le guide de pêche félixgoulet.com. Toutes mes infos sont là, courriel, numéro de téléphone, ma page Facebook est là, de guide de pêche. Les gens peuvent me poser des questions, les gens peuvent rentrer en contact avec moi via Facebook. Il n'y a aucun problème, ça me fait plaisir de répondre à toutes leurs questions.
Hey, super, et ne manquez pas la semaine prochaine. On parle de la longueur de canne à dents dînées. Quelle longueur choisir? Donc, écoute, Félix, tu passes une bonne semaine.
Merci, Guy, à toi aussi.
Vous aimeriez entendre parler de votre région sur Simplement plein air? Rien de plus facile. Un simple courriel à info@simplementplein-air-simplyoutdoors.ca. Je répète, vous nous envoyez un courriel à info@simplementplein-air-simplyoutdoors.ca, car parler de vous, c'est ce que Simplement plein air fait de mieux. Donc, contactez-nous sans plus tarder et ça va nous faire un grand plaisir de discuter avec vous de votre région.
De l'information, des nouveautés, des trucs, Simplement plein air, c'est tout ça et beaucoup plus.
Voilà, c'est là-dessus qu'on se laisse pour cette semaine. Comme le dit si bien le vieil adage, vous avez aimé cette édition de Simplement plein air? Eh bien, dites-le à d'autres, qu'ils le disent à d'autres et qu'ils le disent à d'autres. Rappelez-vous qu'il vous est toujours possible de venir nous rejoindre sur notre site www.simplementplein-air-simplyoutdoors.ca ou consulter notre page Facebook à @simplementplein air. Bonne semaine et à la semaine prochaine. We'll be right back.